Ah voilà, c'est le temps des enfants aussi en même temps. Pour ceux qui ont des enfants qui veulent aller à l'atelier des enfants, maison arc-en-ciel. Ah, super, merci.
Non, non. Donc on va, je vais essayer de piloter ça d'ici, on va voir. Donc bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui Manuela, Vito et moi-même, nous allons faire un tour de rôle, un peu un bilan de notre semaine à Toulouse qui s'est passée maintenant, c'est il y a un mois, donc ça remonte déjà. Ma partie c'est de vous donner un contexte de ce qui s'est passé là-bas. Le pourquoi on est allé et de qu'est-ce que c'était ce temps à Toulouse. En faisant, certains vont entendre des choses qu'ils connaissent déjà. Certains de les contextes sont déjà connus, mais pas tous. Mais j'ai vraiment à cœur que tout le monde ne perd pas cet aspect stratégique que Dieu veut faire avec nous et d'avoir ce contexte. Donc voilà, je vais répéter certaines choses. Alors, est-ce que ça va fonctionner? J'espère. Tu peux débrancher et brancher le USB? Ça marche? Ok, c'est bon, super. Donc, d'abord le nous. Donc, il y a Manuel Obussier. Voilà. Et Vito, Pascasio, et moi-même. Et nous sommes l'équipe ASAF. Donc ASAF est l'équipe de direction de notre maison de prière, la tente La Rencontre, qui existe ici à Josué. Donc nous sommes allés en tant qu'ASAF, en tant que cette équipe de direction, et c'est important. Et je vais vous raconter pourquoi un peu plus tard. Et puis, on est allé à quoi? Donc, on est allé à une semaine ouverte au sein de l'école Melchizedek. Donc, qui est là? Voilà. C'est une école prophétique, biblique à Toulouse. Donc, c'est quelque chose qui dure juste 3 mois, mais 3 mois intenses. Et ça se passe tous les 2 ans. Vous pouvez rappeler qu'actuellement Alice Russell et Barbara Hassenforder de chez nous sont des participants à cette école qui a commencé en septembre et qui vient de se terminer vendredi. Donc je ne sais pas quand on va les voir, je sais que Barbara va aller d'abord à Clermont et après elle va venir ici. Donc on risque de les voir pour Noël. Donc, la semaine à laquelle on est allé, il y avait un titre, les maisons de prière et les communautés prophétiques. Et ça, c'était la semaine de lundi à vendredi. Mais à vendredi soir, s'enchaînait le rassemblement des maisons de prière, ce qui se passe tous les ans, plutôt à Toulouse. Et donc, c'était 2 choses ensemble qui se collaient ensemble et qui faisaient une semaine complète. On est parti très tôt le lundi matin, on est revenu très tôt le lundi matin suivant. Et donc, c'était vraiment une semaine intense. On avait l'orateur pour tout le long, c'était Kirk Bennett de IHOP à Kansas City. Et c'est là où est la famille Tendant, pour ceux qui le connaissent. Alors... Viens. Non. Ou pas. Il n'a pas envie. Ah voilà, c'est l'orateur. C'est toi qui as fait? Merci. Bon, sois attentif. Hein. Donc, suivante. Alors, pourquoi la signification d'y être en tant qu'ASAF? D'abord, bien sûr, on est concerné par le sujet. Les maisons de prière et les communautés prophétiques. Voilà, ça nous concerne encore plus. Suivante. C'est la première fois qu'on a pu assister tous les trois ensemble à un temps consacré pour les maisons de prière. Donc, il y a quelques ans, Vito et moi, on est allés deux fois à Augsbourg, en Allemagne, pour un rassemblement des maisons de prière européennes. Et c'était des temps formidables, c'était super, mais Manuel ne pouvait pas venir avec nous. Donc, ça faisait quelque chose, un décalage. Et ça a affecté la façon qu'on guide la maison de prière et un peu sa croissance, à mon avis. Donc, suivante. Donc, notre maison de prière existe depuis septembre 2013 et donc c'est maintenant en cours de cette septième année que nous avons enfin l'occasion de recevoir à la fois le même input de Dieu, tous les trois. Donc, suivante. Moi, je suis allé avec beaucoup d'anticipation. Suivante. Et je n'étais pas du tout déçu. Donc, Vito va toucher davantage l'aspect de avec qui on était un peu. Mais je crois que c'est important de parler de la communauté prophétique à Toulouse. Suivante. Que Dieu a développé au fil des années, et le plus important qui est là. Donc cette école Melchizedek n'existe pas sous vide, on dit en anglais « in a vacuum », donc ça n'existe pas à part tout seul, mais il fait partie de toute une communauté prophétique. Le rassemblement national annuel des maisons de prière Melchizedek sont des fruits d'un mouvement qui s'appelle « France en feu ». Suivant. Qui est dirigée notamment par Fabienne Pons. Et elle-même est une pionnière de la louange francophone depuis les années 80, donc de très longtemps. Pour ceux qui se rappellent de le groupe Flamme, voilà, elle était le leader. France en feu a pour l'objectif de lever des hôtels d'adoration partout en France. Et nous, Josué, nous avons fait partie de ça, avec nos tabernacles de louanges mensuels pendant de nombreuses années, et aussi des conférences importantes de France en feu depuis des années, dont une conférence très importante où Alana a commencé à faire partie de notre famille. Donc c'était des rencontres importantes. Et nous sommes connectés aussi avec plein de personnes qui sont impliquées avec France en feu. France en feu a été instrumentale aussi dans la croissance de la fédération de façon relationnelle, les maisons de prière en France. Donc il y a quelque chose, c'est comme un maire qui regroupe sa famille. Et il y a quelque chose à Toulouse qui fait partie de ça avec France en feu. Donc ainsi que notre connexion prophétique avec Toulouse, qui tourne autour de France en feu et Melchizedek, nous avons une connexion apostolique avec Toulouse. Donc les deux, prophétique et apostolique, ce n'est pas un adensage quoi. Melchizedek et France en feu se trouvent en tant qu'œuvre dans le réseau Nouvelle Connexion Ariel. Voilà. Et Fabienne Pons fait aussi partie de leadership de l'Église Assemblée Chrétienne de Toulouse, l'ACT qu'on dit. Et ça fait partie aussi du réseau de nos églises. Et c'est où se passe l'école Melchizedek. Donc il y a plein de choses qui se sont rassemblées ensemble. Cette semaine était une semaine pour nous trois tellement riche en connexions relationnelles profondes. Prochaine. Comme individus et aussi ensemble. Donc on avait des connexions de longue date qu'on a pu revivre et de façon profonde, et c'était individuel, mais aussi ensemble, on s'est connecté avec l'orateur, on avait une ouverture privilégiée, un peu miraculeuse. Moi je dirais, il nous cherchait, et sans que, voilà, on le cherchait lui. Et c'était bien d'avoir cette connexion aussi avec Eric Péchin et Michael, sa femme. Et c'était bien pour moi, j'ai jamais rencontré Eric, j'avais entendu parler et tout ça, donc c'était bien de faire cette connexion et la reconnexion, et ça c'est quelque chose qui va porter du fruit plus tard. D'ailleurs il vient en mai, oui, mois de mai. Donc Dieu a utilisé ce temps non seulement de parler à nos têtes et nos cœurs avec ses vérités profondes et ses paroles réma pour nous trois, et d'ailleurs je crois pour nous tous, mais il a aussi utilisé ce temps pour tisser davantage notre connexion dans cette communauté prophétique. Donc, voilà. Qui est un royaume de sacrificateurs? Et au fil des années, Toulouse est devenu un lieu de rassemblement, mais aussi un nœud de connexion internationale. Donc, notamment avec la maison de prière internationale à Kansas City, IHOP, mais aussi avec le ministère de Watchmen et David Damien au Canada, des autres adorateurs en Europe, des autres maisons de prière en Europe. Donc c'est vraiment un lieu de ressourcement, mais aussi une communauté de connexion. Nous sommes liés depuis un moment, mais on peut voir actuellement que les nouvelles générations commencent à se tisser dedans. Et ça, c'est encourageant. Je vois que les gens, je pense à Barbara, je pense à d'autres personnes, je dis, tiens, ils commencent à connaître les mêmes personnes, les mêmes réseaux, les mêmes connexions, et ils vont faire vivre les mêmes choses. Donc à part le titre « Les maisons de prière, les communautés prophétiques », je n'ai même pas touché le contenu de la semaine. Partiellement, c'est parce que Vito et Manu vont la toucher plus tôt que moi, mais aussi partiellement parce qu'on ne peut pas vraiment vous raconter et présenter le contenu de la semaine dans sa profondeur et dans la façon que ça nous a impacté, nous. Donc, je crois que... On avait assisté à plein de conférences, des super conférences, super contenu, des orateurs et des temps de louange fous et tout ça. Mais on n'a pas vraiment vécu quelque chose comme ça auparavant. Et même physiquement, ça nous a touchés. Pour ceux qui ont l'habitude déjà de fréquenter les séminaires, des conférences, typiquement après le repas de midi, il y a les gens qui viennent avec le coup de barre et te tapent. Et tu rates 2 heures en faisant comme ça et tout ça. Mais pas du tout. Cette semaine, tout le long, intense, on n'avait rien. Donc physiquement, on était bien. Et on s'est donné bien dans la louange aussi. Donc ce n'était pas parce qu'on était calme, pas du tout. Donc on peut dire tous les trois que c'était bouleversant pour nos vies. Mais plutôt que de vous bouleverser aujourd'hui, je crois que ce n'est pas possible de faire comme ça. Je crois que ça va se traduire en comment on va guider l'attente à la rencontre et comment ça va avoir un impact dans notre communauté prophétique qui est Josué, les choses qu'on va vivre dans l'avenir. Donc je laisse Vito ou Manu, je ne sais pas qui, Vito. La suivante.
Oui, normalement c'était moi après pour la clé. Alors... ce qui est intéressant pour le logo, si tu peux remettre le logo de la tente de la rencontre, s'il te plaît. Bon. Alors, ce qui est intéressant, je voulais revenir au logo de la tente de la rencontre. Puis là, en voyant celui de France en feu, il y a déjà la flamme. Il y a la tente qui parle de demeurer, ce que recevait tout à l'heure de nouveau Nadine. Le psaume 91 que Huguette a reçu, hein, « Demeurer, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre ». C'est vraiment le psaume que le Seigneur a donné pour cette année. Donc ça parle de ce côté de demeurer, d'être avec lui, de tremper. Et ce qu'il y a aussi de... le logo... Et ce qu'il y a aussi dans notre logo, ce sont des alliances, si vous pouvez les voir, qui sont au centre de la flamme. Ça veut dire que s'il y a un autel, c'est parce qu'il y a eu le prix, un prix qui a été payé, ça nous parle de cet agneau immolé. Et c'est pour ça qu'on l'a dans le cœur de notre logo. La tente de la rencontre, c'est cet agneau immolé. Et c'est le rencontrer lui, et c'est vraiment ce qu'on a pu vivre profondément cette semaine, et qu'on est appelé à vivre tous. Et pour moi, ce que je voulais vous partager en premier, c'est de le remettre dans notre contexte local. C'est-à-dire, c'est pas juste un événement, c'est pas quelque chose qui vient balayer le reste, non, ça vient pour soutenir ce que nous vivons ici. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais déjà actuellement, nous sommes dans cette phase où on retravaille sur les dons. Quels sont les dons de chacun? À quoi est-ce que nous sommes appelés? Quelle est notre place? Et pour moi, cette semaine, et je vous expliquerai après comment, on nous a donné des clés et qui nous permettent de voir. Ben, je vous l'expliquerai mieux tout à l'heure. Et l'autre chose, surtout, c'est, vous savez que nous appelons l'Église Josué. Et donc l'église Josué, c'est si on prend Josué chapitre 1 au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et en fait, notre semaine a commencé avec Kirk sur la méditation. Et ça, c'est une des choses que nous avons vécues et c'est une clé qu'on aimerait vous donner. Alors déjà, la méditation, elle existait bien avant le bouddhisme. Le bouddhisme est né 800 ans après. Donc la méditation était déjà une tradition hébraïque et qui a été repris par nos pères de l'Église, ça c'est lui qui nous l'a retrouvé. Et en fait, j'aimerais rajouter derrière méditation, méditation de la parole. Et pour moi, ça a été des choses tellement simples, c'est comme si on nous avait simplifié les choses. Moi, je sais que le Seigneur m'a dit à plusieurs reprises ces derniers temps, mais c'est pas si compliqué, c'est simple. Et donc, on a eu par Kirk, qui a dirigé cette semaine et qui maintenant est à IHOPE, donc il nous a donné un peu son témoignage. Donc lui s'est converti en 73 et il était dans une église où il y avait beaucoup de conversions, mais pour lui, après au bout de 2 ans, il avait soif de plus et c'était une église qui ne descendait pas beaucoup en profondeur. Donc après ça, il a rejoint une église presbytérienne, merci, et où il est resté pendant 6 ans. Et donc là, c'était vraiment la théologie, le fondement de la parole. Et il avait encore soif de plus. Et ça lui suffisait pas. Et après ça, du coup, il s'est rapproché de IHOPE. Donc. Et il est resté à IHOPE pendant 5-6 ans. Et au bout de 6 ans, on lui a demandé de rentrer dans l'équipe. Mais voilà, c'est que pour rentrer dans l'équipe, il fallait passer 8 heures dans la maison de prière par semaine. Et lui, il était à ce moment-là déjà converti depuis 25 ans, il avait déjà été pasteur, il avait même implanté une église, et il disait, lui, s'il passait une demi-heure dans la semaine, c'était déjà bien, c'était les bonnes semaines, quoi. Il avait, pendant ses 25 années, réussi à mémoriser peut-être 25 versets. Et là, du coup, c'était le méga défi, quoi. Alors, les premières semaines, le dernier jour, le vendredi, il se retrouvait pendant 5 heures dans la maison de prière, parce qu'il n'avait pas réussi à faire plus. Et là, il disait, mais qu'est-ce qu'on fait dans une maison de prière pendant tout ce temps? Et donc, il est allé voir, d'abord, il a vu Mike Bickle, pour ceux qui le connaissent, qui avait tous ses livres, il y en avait un autre sur son ordi, mais... Et humblement, il est allé demander à un ami, il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, j'ai fait ma liste de prières, mais au bout d'une demi-heure, j'ai terminé. Alors, il lui dit, prends les prières apostoliques. Alors, il dit, c'est quoi les prières apostoliques? Ce sont les prières qu'on a qui sont faites par les apôtres. Donc, il prend les prières apostoliques, mais là, c'est pareil. Il avait vite terminé. Donc, au bout d'un temps, il dit, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il y en a qui dit, mais médite la parole. Il dit, mais c'est quoi méditer la parole? Et donc là, c'est très intéressant, méditer la parole. Donc, pour ceux qui le veulent, on a le témoignage de ce frère et il nous donne un peu tout ce qu'il faut. Et ben, méditer la parole, c'est simplement déjà la répéter. Je dirais que ce qui m'a touché beaucoup, c'est la lui redonner à lui. On la médite pas pour nous, mais on la lui redonne. On peut la chanter, on peut l'écrire. Mais en fait, méditer la parole, c'est une rencontre. Et c'est ce qu'on a pu vivre sur place. On a fait plusieurs fois ces exercices-là. Simplement, on prenait un verset et simplement de commencer à le méditer. Et là, comme on était dans un environnement très particulier, déjà parce que ce frère Kirk porte ça de façon très développée, et on était dans l'atmosphère de Melchisedec, ce qui n'est pas rien, et là, on le rencontre lui. Et lui, il est la parole de Dieu. Lui, il est le fidèle, le véritable. Et donc là, je vous encourage à venir à la maison de prière le mercredi soir de 19h à 21h parce que c'est vrai que quand on démarre ensemble, c'est beaucoup plus facile. En tout cas, nous, ça a été vraiment, pour moi, ça a été une expérience qui m'a énormément aidée, que je continue à pratiquer. Et c'est tout simplement, ça transforme. Parce qu'en fait, quand on nous rencontre lui, ça nous transforme. Et David disait que c'était la première fois qu'il vivait un séminaire comme ça. Moi, j'en ai vécu un autre. C'était pendant 3 semaines au Mexique. Et c'était aussi comme ça, la parole et l'onction. Et c'était la notion de la justice qui était travaillée là-bas. Ça m'avait fait sortir de mon burn-out. Mais là, c'est le rencontrer lui, c'est le rencontrer dans la parole. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est Kirk disait, il montrait que, par exemple, dans l'Apocalypse, c'est le Jésus que l'on ne connaît pas. C'est cet agneau immolé avec les 7 cornes, avec les 7 yeux. Et c'est quand on vient le rencontrer lui au travers de la parole qui va nous emmener, qui va nous permettre de connaître qui il est lui. Et quand on est en son contact, eh ben on découvre qui on est nous. Et l'image qu'a reçue Timothée ce matin parle tellement fortement de l'enjeu. L'enjeu, c'est de venir ensemble comme une communauté dans sa présence. C'est d'apprendre à le connaître lui, de prier ce qu'il prie. Et ça va affecter notre nation, notre vie, notre famille. Parce que dans cette présence, eh bien, il nous parle, il nous montre. Et alors, on peut agir avec lui. C'est un moment d'échange. On peut libérer nos fardeaux. Et alors, il commence à se révéler dans cette méditation. Et après, ça devient un dialogue. D'abord, on murmure, on chante, on écrit. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ouf, il apparaît. Et là, c'est un dialogue, selon ce qui se passe à ce moment-là. Et alors, on lui pose des questions. Et alors, on lui emmène plus loin. Mais tout ça, ce n'est pas juste pour nous. C'est parce qu'il veut nous emmener, nous. Il nous entraîne. C'est comme si on changeait de dimension. Comme disait David tout à l'heure, on a vécu une semaine avec 0 coup de pompe. Nous n'étions plus dans notre dimension humaine. On n'était pas dans nos limitations. Vous savez ce passage qui dit « Le royaume de Dieu est là et pas encore là ». Il est déjà là parce qu'il s'est approché. Et ça nous demande juste de nous, on peut rencontrer, mais si on y rentre au travers de lui. Et là, je commençais à voir en méditant qu'il... cet agneau, on rentre au travers de lui, ça semble. Mais voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. On a besoin de les vivre avec lui, dans sa présence, dans la parole. Et c'est simple. C'est pas compliqué. C'est pour tous, mais je dirais pour tous ceux qui ont faim et soif de plus. Et la clé, c'est la faim et la soif de plus. Et je disais avec Luc, ça ne remet pas en question tout ce qui est recherche théologique et tout, mais c'est comme si ça commençait par là. Ça commence par cette rencontre. Et de là, alors on va chercher. On le connaît en esprit et en vérité. Et ensuite, on va chercher. Donc ça, je dirais que c'était un des points très forts. Et l'autre point très fort qu'on a vécu et qu'on a déjà vécu aussi nous dans nos tabernacles, c'est des temps dans sa présence, dans l'adoration, dans la louange communautaire. On est appelé à être une communauté de sacrificateurs où on se met ensemble à sa disposition et on prie ce qu'il prie, on rentre. Et on a eu des temps comme ça aussi très forts qu'on ne peut pas raconter, mais qui se vivent. Et qu'on est appelé à vivre de plus en plus ensemble. Voilà, et je crois que je vais laisser la parole. Donc, rendez-vous à la maison de prière pour ceux qui veulent en savoir plus. Et ceux qui veulent plus aussi, on peut leur donner le petit fascicule de Kirk. Mais si on le lit simplement, ce n'est pas pareil que si on le vit.
Merci. Ok, est-ce qu'on m'entend bien ? Parce que je sais qu'en général... Pour le mettre trop près ou trop bas. Voilà. Alléluia. Alors, juste pour revenir à cette méditation, moi, c'est un truc qui m'a explosé le cerveau, entre guillemets. dans le bon sens du terme, parce que quand je lisais la parole et quand j'étudiais ou je méditais, j'avais toujours ma Bible avec moi et j'arrêtais pas de rebondir d'un verset à l'autre parce que mon esprit était tellement au travail, puis et ça faisait comme une espèce de zigzag et c'était génial. Là, c'était tu écris le verset, tu mets la Bible de côté. Et c'est dingue. Parce que du coup, je le rencontre lui. Si je ne rencontre pas la parole, mais le texte, je ne rencontre pas les informations, mais je le rencontre lui. Et ça. Waouh! Donc ça m'a aidé de mettre la Bible de côté, alors que j'écris le verset. Une communauté prophétique, France en feu. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est le seul endroit en France qui nous a été donné, je dirais, pour nous en tout cas, pour vivre ça ensemble. Si Dieu nous donne quelque chose, et on rappelle Éphésiens, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, etc. Si Dieu nous donne quelque chose et on ne s'en sert pas, nous sommes responsables de ce que nous faisons avec. Et là, il y a un cadeau juste incroyable de pouvoir vivre ces temps d'intercession, ces temps prophétiques, ces temps d'écoute de la parole ensemble. C'est une vraie famille. Je suis comme un poisson dans l'eau là-bas, parce que effectivement, on retrouve Eric et Mickaël. C'est des connaissances, mais il y a aussi une profondeur biblique juste incroyable. Ce qu'on a vécu en termes d'ouverture avec Kirk, c'était juste inespéré. Mais avec Elvire, avec Nadine, avec des plus jeunes, le temps qu'on a vécu avec Barbara dans la danse, c'était juste incroyable. Quand tu danses pendant 2 heures, et je peux dire que les jeunes et les vieux étaient fatigués à la fin. C'est-à-dire que physiquement, à la fin, il y avait des courbatures. Le t-shirt est mouillé. Mais ce n'est pas parce que tu veux faire une performance physique, parce que tu es dans cette onction que tu es en train de pousser tous ensemble. Et ça a l'air complètement stupide. D'ailleurs, on interdit d'ailleurs de filmer parce que, sorti du contexte, ça ne veut plus rien dire du tout. Mais c'était juste. Et je pense que c'est vraiment Dieu qui nous réunit ensemble. Et je pense que c'est une des choses dans lesquelles on doit continuer à se connecter. Donc, par exemple, il y a Gagnères, France en feu, au mois de mai. Week-end de la Pentecôte, réservé, pour vivre ça ensemble, davantage en tant que communauté. Et c'était chouette de vivre ça là-bas avec Alice et Barbara, avec Esther, c'était vraiment chouette. Et il y a une autre connexion avec, par exemple, Barbara et Priscille. C'est juste incroyable, il y a quelque chose qui nous a élargi. Donc vraiment, et cette connexion, ça va, comme David l'a montré, ça va avec Famille des Nations, les Watchmen, et ça, c'est un truc qui, de par le monde. Donc on se trouve connecté avec ce que Dieu fait dans l'aujourd'hui, dans le maintenant, à travers les nations. Et on n'est pas les seuls à devoir écouter Dieu pour tout. C'est comme si ça repose parce qu'on fait partie d'une grande communauté qui écoute tout ensemble. C'est vrai que moi, j'y suis allé avec des attentes, mais en même temps fatigué parce qu'on a vécu des choses au niveau de l'ISP où j'avais besoin d'un break, donc ça m'a fait du bien d'y aller. Je vous laisse ce moment-là. Et c'était génial d'y aller à trois. Merci d'avoir insisté. Et puis, on a démarré avec Kirk, et ça, pareil, les choses qui ont été amenées sur le terrain. Je vais commencer par prendre un des versets dans Hébreux 5, si on peut l'afficher. Que c'était Hébreux 5. Ouais, c'est pas celui-là que je voulais. Donc j'ai pas pris la bonne note. Mais c'est bien, il faut garder celui-là après. En tout cas, c'est dans Hébreux, il est dit, m'a donné, vous savez ce passage, je lui dis, mais vous êtes devenu lent à comprendre. Parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Et Kirk avait médité sur ce verset 20 heures. Dans ce passage, je vous l'ai dit, mais j'ai tellement de choses à vous dire, et vous êtes devenus lents à comprendre. Et après, il va continuer en disant, mais ce qui était juste dit au-dessus, c'était laissant les choses élémentaires, et il nous a rapporté ce que c'était ces fameuses choses élémentaires. Et j'ai dit, mais moi, je connais rien ces choses élémentaires, ou à peine. Ça parle de la résurrection des morts. Est-ce que vraiment, en tant que chose élémentaire, c'est pour moi élémentaire? Non, pas vraiment. Il y avait parlé des les manières d'être lavé. Donc, c'est, en fait, parler du baptême dans le texte, mais c'est Hébreux 7. Voilà. Je crois que c'est 7. Et quelque part là-dedans, il y avait l'idée, mais les manières d'être lavé, d'être consacré, purifié, l'imposition des mains, jugement éternel. Ça, ce sont les choses élémentaires qu'on devrait connaître par cœur. Et si on en est là, c'est qu'on en est au lait. Bon, ben je suis au biberon du lait. Quand je vois ça et je vois ce que moi je connais, je dis mais je sais pas. Excusez-moi, ce sont les fondements. Et après, on peut aller plus loin. Et c'est juste incroyable de rentrer là-dedans, de se dire mais en fait, on a été confronté à des révélations dans la parole, juste quelques flashs comme ça. Un autre flash, parce qu'on a parlé aussi beaucoup de du fait que la maison de David a été relevée. À un moment donné, il nous fait la liste de certaines personnes qui sont dedans, et des fils de Corée, et des fils et des petits-fils. Et puis du coup, il ramène ça au fait que les fils de Corée, qu'est-ce qui s'était passé à un moment donné? Ils avaient été rebelles. Et la terre s'était ouverte, et ils avaient été engloutis. Et là-dedans, Dieu prend un reste, et dans ce reste, il les met dans sa présence. Quel exemple de la rédemption qui est juste incroyable. Et ça, moi j'ai vu ce texte combien de fois? Je ne l'ai jamais vu. Et dans ce texte-là, il est rappelé que ce sont des fils et des trois générations qui travaillent ensemble. Combien de fois on nous a parlé de générations ici? Sachant que normalement, à 20 ans, tu n'avais pas le droit d'y aller dans ce service-là. Et comment Dieu a transgressé certaines limites qu'il avait lui-même mises pour nous amener dans cette maison de David. Et il y a plein de choses comme ça, tu dis, mais j'ai pas vu ça, et j'ai pas vu ça, et j'ai pas vu ça. Et ça a été une explosion de compréhension sur les passages bibliques. Psaume 29 avec la Pentecôte, c'est juste incroyable aussi. Je vous dis pas le reste, comme ça vous viendrez. C'était un moment juste incroyable. Et puis surtout derrière tout ça, ça a été Melchisédek. Melchisédek, la maison là-bas s'appelle Melchisédek. Personnellement, je sais que je l'avais prêché là-dessus dans la petite cellule de maison qu'on avait à Saint-Louis à l'époque, parce que ça me semblait tellement important, quelque chose. Mais je voyais ça de manière complètement diffuse. Et là, tout d'un coup, plein de choses se sont alignées. Et je me suis rendu compte que même certains de mes enseignements, à un moment donné, j'avais prêché ici sur la loi et la grâce, n'étaient pas complètement alignés avec ce que Dieu faisait. J'avais des parties, mais de loin pas. Et là, tout d'un coup, on va rentrer dans une nouvelle dimension. Et juste, on est juste en train de rentrer. C'est comme si on a découvert quelque chose de fantastique, une bonne nouvelle, et qu'on aimerait pouvoir le partager. Mais c'est m'aligner qui je suis. Ça me permet aussi de comprendre pourquoi parfois j'avais cette réticence avec ce qui était les fonctions aaroniques, la sacrificateur. Mais ça, c'est quelque chose du passé. Mais c'est comment honorer Israël et comment garder ça? Là, du coup, je trouve mes réponses et je trouve un magnifique alignement. Donc, on va remettre le Hébreux 5. Merci. Parce que dans Melchisédek, finalement, là où l'on arrivait tout à l'heure au cœur, c'est de dire, mais j'ai tellement de choses à vous dire. Mais il n'y a rien sur Melchisédek. Il y a trois versets qui se battent en duel. Et on parle d'un souverain sacrificateur, prié du milieu des hommes et établi pour les hommes dans les services de Dieu. Dans le service de Dieu. Et verset suivant, 5-10, s'il te plaît. C'est moi qui t'ai donné mon réponse. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ce Melchisédek, on le retrouve aussi dans Genèse. Genèse 14, 17-24. Et c'est l'histoire où Abraham revient de la lutte. Il avait ramené son neveu et d'autres personnes, et là il rencontre. Et là il y a une rencontre qui se passe. Et remarquez que la première personne qui, ça aussi j'avais jamais vu, dans cette rencontre qu'il y a, la première personne qui vient rencontrer Abraham et ce qui était avec lui, c'est le roi de Sodome. Sorti à sa rencontre, qui est la vallée du roi. Le verset suivant. Et là, tout d'un coup, de nulle part, arrive quelqu'un, Melchisédek. Roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il y a cette rencontre qui se fait avec Abraham, verset suivant. Il bénit Abraham, il dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. » Il apporte une bénédiction. Et le pain et le vin, je pense qu'on a tous compris l'allusion. On continue. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham lui donna la dîme de tout. Il se passe une relation, il se passe quelque chose. Verset suivant. Et là, tout d'un coup, le roi de Sodome qui est apparemment présent, il n'a rien vu de ce qui s'est passé. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Ce qui nous a été proposé, c'est que cette rencontre a eu lieu dans une autre dimension. Parce qu'il y a un protocole quand on voit des rois. Il y a un cheminement à faire. Et dans ce lieu-là, quelque chose s'est passé qui a bouleversé Abraham. Et Sodome, le roi de Sodome ne devait pas être présent dans ce lieu-là. Et c'est de ce même Melchisédek qui était là, dont nous sommes dans la lignée sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Dans Apocalypse 1, verset 6, Apocalypse 5, verset 10 et Exode 19, 6, où l'on parle d'un royaume de sacrificateurs. Ce qui nous a été rappelé durant toute la semaine, c'est que la royauté, la sacrificature étaient deux mandats complètement opposés. Ils n'avaient pas le droit d'exister ensemble. Et quand un roi essaie de le faire, Saül, quand il a voulu faire le sacrifice, il a perdu sa royauté. Et nous sommes appelés à être un royaume de sacrificateurs. On a dépassé quelque chose. Et c'est juste incroyable. En tout cas, ça a tellement bouleversé que pour moi, il y aura un avant et un après. J'ai vécu énormément de choses bonnes. Je faisais un peu un bilan de mes 30 dernières années, conversion, à peu près 30 ans. On est rentré dans l'éducation chrétienne dans la même année pratiquement de la conversion. On s'est retrouvé là-dedans, c'était juste magnifique et on a servi pendant une trentaine d'années ici. Entre temps, en chemin, on a vécu les temps prophétiques à Belfort, on a vécu les temps d'intercession de marche autour de l'Alsace, dans le sud de la France, on a été à Bethel. Il y a eu Tabernacle, il y a eu France en feu, il y a eu Famille des Nations. Mais je crois que Dieu nous a emmenés dans tout ça pour nous préparer à ce qu'on est en train de vivre maintenant. Je le vois comme une grande marge de préparation. Qui avait ses objectifs individuels, mais qui était derrière quelque chose de plus grand. Et ce qui apparaît clairement aujourd'hui, et c'est pour ça que je vais parler d'un aujourd'hui, c'est que cette révélation de Melchisédek est en train d'être donnée aujourd'hui. Par exemple, il y a 4 ans, l'école s'appelait Melchisédek. Ils ont enseigné une heure sur Melchisédek. Nous, ça a été toute la semaine, matin, midi et soir. C'est la même chose qui se passe dans toutes les nations. Fabienne revenait de Singapour. Ils vivent la même chose. C'est ce que Dieu est en train de révéler et de dire sur les nations maintenant. Je crois qu'il y a des paroles qui étaient données une trentaine d'années en arrière. Il y a des puritains, en 1620, des puritains qui voient la gloire de Dieu, qui voient cette révélation d'un royaume de sacrificateurs. On est dans ce maintenant dans lequel Dieu nous amène, nous conduit. Et ce n'est pas un nouveau truc à faire, surtout pas. Je vais arrêter avec les... Je ne vais même pas commencer avec les « il faut ». Maintenant, il faut faire ça. Ça veut dire que quelque part, je mets un nouveau poids sur vos vies et hors de question. Soit c'est une bonne nouvelle, c'est léger et vous pouvez y adhérer, ou Dieu vous la donne. Parce que qui on était, nous, avant d'aller là-bas? Est-ce qu'on était plus intelligent? Est-ce qu'on sommes meilleurs? Absolument pas. Et on a été participants de ce que Dieu a donné à ce moment-là. Et on n'a pas le droit de vous forcer à rentrer là-dedans. On voudrait juste le partager comme étant une bonne nouvelle. Quelque chose que Dieu fait maintenant, et comme si le voile tout d'un coup se déchire.
et dans lequel on peut aller de l'autre côté.
Et ce maintenant, je crois que vraiment, il y a eu des moments très très forts. Par exemple, on a passé toute une soirée à parler de différentes choses et Fabienne racontait un rêve qu'elle avait vécu. Elle était dans une voiture. Alors bien sûr, c'est au début de la maison du week-end et des maisons de prière. Et dans ce rêve, elle parlait du fait qu'elle était dans un noir absolu. La voiture avançait, aucune visibilité. Puis elle bidouille quelque chose, puis elle met les warnings. Et puis, puis quelque part, elle sort de ce rêve. Et Dieu va lui dire, et au fait, si tu avais mis les phares, et on a vécu un temps de repentance là autour. Parce que Dieu nous dit oui, allez, mais parfois on n'y va pas. Donc elle est prête, elle est retournée dans le rêve, elle a allumé les phares. Et là, elle va doubler la voiture qui était devant. Et tout de suite après, le soleil se lève. Et là, il y a la voiture qu'elle a doublée par les modèles anciens. Le jour se lève, un magnifique paysage. Et là, il y a plein d'autres personnes qui sont là. Ce royaume du sacrificateur qui est là. Et elle a demandé pardon pour tous les faux modèles qui ont pu être présentés. Par exemple, d'avoir peut-être parfois trop insisté sur le modèle d'Aaron. L'ancien modèle lévitique, qui est l'ombre des choses à venir. La parole est claire là-dessus avec dans Hébreu. Ce n'est que l'ombre des choses à venir. Et on a reçu cette autrement, cette nouvelle chose à arriver. Mais il faut être volontaire dans cette marche. Et ça a été un temps incroyable où tous ces responsables, et alors que j'ai dit tout à l'heure que c'est là où on reçoit la révélation, malgré tout ce qu'ils ont pu avoir comme capacité ou d'écoute, on peut faire des erreurs dans la manière de conduire et sont venus demander pardon pour ça. Après, il y a eu ce temps aussi où on a été invité. Parce que parfois, dans ça, on s'est servi de ce que Dieu nous a donné, notre héritage, comme un peu le fils prodigue ou le fils aîné qui râle un petit peu. Et quelque part, on a pris ce qu'on a reçu de côté prophétique et on a rempli notre propre ministère avec ça. Et il y a eu un temps de repentance aussi incroyable là autour. Et puis finalement, un cœur qui a libéré cette parole qui disait « Mais la dette est payée, vous n'avez pas besoin de payer, vous êtes libre. » Quel moment juste incroyable d'avoir pu vivre ça, de pouvoir repartir en ayant eu l'impression d'avoir été lavé, nettoyé, et en même temps d'avoir été invité dans la maison du roi et de vivre cette rencontre incroyable avec Dieu. Et c'est ce qu'on aimerait pouvoir partager avec vous et tout doucement arriver à vivre cette rencontre avec le Papa. Il y aurait tellement à dire. Peut-être, je ne sais pas combien de temps j'ai pris, mais peut-être plus que vous. Est-ce que vous voulez rajouter des choses? Pardon? Ok. En tout cas, ça aura un impact. Et les cycles de repentance, on parle, c'est comme parfois on vient et on revient. C'est pas juste quelque chose qui disparaît. Et dans ces temps-là, on a aussi appelé tous ces sons nouveaux à venir. Il y a eu. Est-ce qu'il y en a qui ont des témoignages par rapport à, qui ont vécu des choses par rapport à la TDR? Qui était là le mercredi soir. Il y a Eddie. Anne. Tu peux venir, Anne?
Oui, alors c'était le premier mercredi après leur retour. Et voilà, c'était vraiment nouveau parce qu'on n'a même pas eu tant de louanges. On a juste. Ils ont expliqué un petit peu le fait de méditer. Alors ce qui s'est passé très concrètement, c'est qu'ils nous ont donné le psaume 91 et chacun de nous, on était 7 participants à peu près, on devait demander au Seigneur mais quel verset il fallait méditer. Il disait ça peut être un verset ou une partie de verset. et s'arrêter sur un verset ou une partie de verset. Et puis, on y reste au moins une heure, juste là-dessus, quoi, avec un fond musical très, très doux, dont j'ajoute des choses très, très concrètes. Et alors, ce qui s'est passé en ce qui me concerne, ben, psaume 91, ben, moi, c'était le verset 1 et c'était la moitié du verset 1. Alors, vous savez, le verset 1, déjà, c'est pas très long. Moitié de verset 1, ça veut dire « celui qui demeure à l'abri du Très-Haut ». Voilà, ça s'arrêtait là. Et là-dessus, vous passez une heure. Alors là, j'avoue que je n'avais jamais fait ça. Passer une heure sur ça. Et alors, ce qui est très concret, je vais peut-être dire des choses très pratiques, il y a une feuille. Et puis, on, sur cette feuille, il y a une partie où on écrit le verset, enfin, ou la partie de verset. Et puis, ce dialogue-là, qu'est-ce qu'on voit? Mais à droite, il y a une petite colonne tâche, parce que vous savez comment on est, il peut y avoir des pensées parasites. Oh là là, qu'est-ce que je fais ce soir à manger? Vous voyez, le genre comme ça, les dames, on sait. Hein. Ou qu'est-ce que. Alors là, quand il y a des pensées parasites qui arrivent, on les note et on s'en débarrasse comme ça. C'est noté, on n'a plus à y revenir. Ou l'idée géniale, oh là là, il faut absolument que je fasse ça. Ok, on note et puis comme ça, on s'en occupe plus. C'est très pratique. Denis nous l'avait déjà donné. Hein. Franchement, c'est très, très, très pratique. Surtout partout, il faut avoir sa petite feuille, les tâches. Comme ça, on est tranquille. Et puis en bas, il y a aussi une autre ligne. Quelles sont les investigations supplémentaires? Parce qu'on peut, en fouillant, eh ben, on peut dire, oh là là, mais Seigneur, là, il y a un énorme champ de trésors, mais là, c'est, dans l'heure, ça ne va pas aller. J'ai besoin de faire plus d'investigations. Alors, on note aussi les recherches ultérieures à faire. Et puis, on peut même aussi dessiner. Il faut même mieux venir avec sa trousse de crayon, parce qu'on peut dessiner aussi ce qu'on reçoit. Et alors, bon, en ce qui me concerne personnellement, bah, c'était assez bluffant parce que sur ce demi-verset, bah, oui, j'ai vraiment demeuré à l'abri. Et puis, j'ai même, moi qui ne dessine jamais, j'ai dessiné. Alors, ça, c'est vraiment le truc extraordinaire. Pouf. Et puis en recherche postérieure, je me suis dit, il faut absolument que je regarde dans les occurrences dans la parole de le Très-Haut, elle est lionne. Je sentais quelque chose d'énorme là-dedans. Voilà, je ne vais pas vous dire tout ce qu'on a reçu. Et après, donc je termine la chose pratique, c'est qu'après, on a un temps de partage. Surtout tout le monde a reçu. Alors c'était trop parce qu'on avait, y en a deux qui avaient reçu le même verset, mais sinon tout le monde avait reçu des versets différents. Et c'était d'une richesse et complémentaire. C'était d'une richesse. Alors on a noté tout ce que les autres. C'était énorme, quoi. En fait, voilà, c'est cette présence. On est dans cette présence. On est ensemble. Et on va dans les profondeurs du verset. Et alors, quelqu'un, c'est vous qui nous avez dit qu'à I Hope, ils étaient restés 3 semaines sur un verset, c'est ça? Et après, ils rouspétaient quand il fallait passer au verset suivant. Ben, je crois que je suis toujours moi depuis là. Oui, l'autre TDR où je suis allée, ben, j'ai fait la deuxième partie du verset. Voilà. Voilà. Bah oui, on est scotché sur le verset et puis on y reste, quoi. Demeurer. Voilà.
Oui, un autre témoignage. Donc j'y étais et j'y étais. Et vraiment vécu quelque chose de fort aussi. J'avais jamais expérimenté le fait de rester 1 heure ou 2 heures sur un verset. Moi, j'aime bien lire. J'aime bien lire la Bible. J'aime bien chanter. Je peux rester des heures dans l'adoration, dans la louange. Mais des heures sur un verset, franchement, non. Et là, donc, le contexte était là. Et moi, le verset que je dis, tiens, le verset 4, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Alors, je suis resté là. Et puis, bon, entre autres, il y a un moment, tout de suite, moi, je vois les autres passages bibliques dans ma tête qui défilent. Vous voyez ? Alors, tout de suite, l'histoire du refuge sous ses ailes. Clac, clac, clac. Tout d'un coup, je me vois dans Exode 20. Le refuge sous les ailes des chérubins sur le propitiatoire. Alors je prends le texte et tout d'un coup dans ce texte, Dieu dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi, sous les ailes des chérubins, et c'est de là que je te donnerai mes ordres. Et tout d'un coup j'étais propulsé dans cette présence et Dieu qui dit, c'est de ma présence que tu exerces l'autorité. Et donc, vous voyez, et ensuite des tas de versets qui viennent, ta, 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 ça défile, ça a duré 2 heures, 1 heure et demie, le temps qu'on partage. Je ne vous dis pas tout, mais c'était extrêmement riche. Et mercredi dernier, ben, j'ai pris le verset d'après. Sa fidélité était un bouclier et une cuirasse. Et pareil, ta 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 ta. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça ne remplace pas la lecture des Écritures. Mais tout d'un coup, je réalise que ça fait partie d'une magnifique tradition de l'Église. Et cette tradition, figurez-vous, est déjà chez les Juifs, mais elle s'appelle la Lectio Divina, la lecture divine, si vous voulez. Et depuis les premiers siècles de l'Église, depuis l'Église primitive, ils avaient l'habitude de prendre comme ça une portion de texte, un verset ou autre, et d'en faire une méditation. Donc, lecture 1, méditation 2, ensuite prière 3, on prie la parole, et 4, contemplation. Et nous avons dans ces 4 piliers, même la réforme, Jean Calvin, etc., ils ont dit, il faut continuer cette tradition de la lecture divine. Et c'est vraiment une tradition qui a nourri l'Église au travers de la parole. Et il y a juste je termine par un, j'ai trouvé dans les sources chrétiennes un père de l'Église qui disait ceci, écoutez ça, la lecture cherche la vie bienheureuse, la méditation la trouve, la prière la demande et la contemplation la goutte. Et donc je suis persuadé qu'il y a dans cette parole, dans ces écritures, pas seulement une lecture donc intellectuelle qui est importante, qui est capitale, comprendre, mais une parole qui est du pain dont on se nourrit et se va-et-vient avec Dieu qui veut nous éclairer. Donc je vous invite vraiment à... Voilà, c'est difficile à le faire parfois seul. Quand on est en groupe, c'est plus facile. Tu es coincé dans le caveau, t'imagines. Hein, tu es coincé dans le caveau, tu ne peux pas sortir. Tu voilà, t'es là avec les autres et tu te dis bon, bah, j'y vais quoi. Et Dieu nous rencontre. Voilà, donc merveilleux et merci à d'avoir partagé ce qu'ils ont partagé. Je crois que c'est un outil merveilleux que Dieu nous donne.
Et comme disait Jocelyne, cette parole que l'on médite après, elle reste. Et alors on comprend quand Paul dit que cette parole méditer jour et nuit. Bah oui, c'est possible. Et dans ce que partageait Vito, on se rend compte que en venant dans cette méditation, ça nous ouvre des portes et on se rend compte des fondements qui nous manquent. Comme il disait le petit lait, il dit quand on se contente juste des paroles que l'on reçoit sans les creuser, en fait, on est encore même pas au biberon de lait, en fait. Donc, que le Seigneur nous aide. Et je vous propose qu'on puisse terminer par la prière ensemble et rendre grâce à Dieu pour qui il est. Rendre grâce à Dieu d'avoir fait de nous une famille, ça c'est extraordinaire. Rendre grâce à Dieu pour ce saint sacrifice qui a permis de déchirer le voile. Mais on ne veut pas rester là, parce qu'il y a un monde qui attend. Le Seigneur prépare son épouse, et cette épouse c'est qui? C'est celle avec qui il peut partager ses préoccupations. Et ses préoccupations c'est quoi? C'est le monde. Mais on ne veut pas y aller, nous, par nos propres pensées. Mais on veut simplement partager avec lui. Et pour moi, ce que j'ai vraiment reçu, alors Vito donnait la grande image, mais c'est que nous sommes d'abord une communauté et que c'est ce ensemble qu'on veut apprendre. Je vous propose de prier. Tendre Père, vraiment, nous te rendons grâce pour le maintenant dans lequel nous nous trouvons, dans ton maintenant à toi. Et merci parce que tu ne nous as pas appelés seuls et tu as fait de nous une famille. Merci parce que nous sommes complémentaires et nous voulons vraiment apprendre à nous écouter les uns les autres, t'écouter toi en premier, écouter ce que tu dis au travers des uns et des autres et marcher ensemble et t'apporter toute la gloire. Seigneur, merci pour ce va-et-vient de ta parole. Tu dis que la parole ne revient pas sans effet. Tu donnes ta parole, mais quand on te la renvoie, elle revient, elle fertilise la terre. Et c'est tout un processus, un va-et-vient entre le ciel et la terre. Et ce va-et-vient, c'est nous qui pouvons le produire en parlant ta parole, en te l'apportant, en la priant, en la chantant, en l'incarnant. Tu t'es incarné, Seigneur, tu t'es sacrifié. Tu as été ce sacrifice parfait. Maintenant, tu es ce saint sacrificateur qui est lui-même le sacrifice auprès du Père. Tu es le glorieux, tu es celui qui est là et qui prie pour nous, Seigneur, et nous voulons vraiment apprendre à demeurer avec toi, aller ensemble afin que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté soit faite, que tu demeures, Seigneur, et que ton sacrifice ne soit pas vain, mais que tout ce que tu veux racheter notre terre le soit par ta grâce. Et merci parce que tu veux nous rendre participants et c'est un tel privilège. Alors on veut sortir de l'enfance, on veut sortir, Seigneur, oui, des couches de l'enfance.
d'être centrés sur nous-mêmes, mais nous recentrer sur toi et t'écouter toi. Et vraiment, nous te rendons gloire. Et merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Et merci, Jésus, parce que tu es